EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Moi, ma vie, finalement, elle est pour le Seigneur. Donc, le service, en vrai, pour moi, c'est vraiment une adoration. Tu vois, c'est pas simplement je sers une activité, c'est juste une activité et puis c'est tout, quoi. Non. C'est vraiment une offrande que j'offre à Dieu. Et vraiment, quand je le fais, je le fais vraiment avec mon cœur. Et tout ce que je veux faire pour lui, tout ce que je fais pour lui, ce qu'il me demande de faire, en fait, je veux vraiment être disposée à le faire et le faire vraiment avec tout ce que j'ai, mes tripes et tout, parce que ça, c'est vraiment pour le Seigneur que je le fais. Et je veux qu'il l'agrée, en fait.
Bonjour et bienvenue à toutes. Heureuse de vous retrouver ce vendredi, de terminer la semaine ensemble. Alors aujourd'hui, on va recevoir Madvi qui va nous partager son témoignage de vie. Et lorsque je pensais à Madvi, que je vais vous présenter dans un instant, eh bien je pensais à cet arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. Et vous savez, quelquefois on a tendance à penser que la vie chrétienne, ça va être que des grands moments de révélation où on va avoir des vies, le ciel va s'ouvrir. Et puis quelquefois on oublie que le fait d'être planté avec le Seigneur, eh bien sa vie, la vie qui coule en nous, eh bien va faire en sorte qu'on va porter du fruit de façon naturelle. Et qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est d'avoir un bon cœur, un cœur disposé qui aime le Seigneur, et puis de maintenir cette relation. Et c'est comme ça qu'on va avancer le plus loin possible, et c'est comme ça aussi qu'on va vivre des choses fortes avec le Seigneur. Et quelquefois, eh bien je crois qu'on cherche beaucoup l'expérience, on cherche le grand moment et on oublie d'être cet arbre planté près d'un courant d'eau et on oublie de se laisser arroser, de se laisser nourrir de façon quotidienne. Mais Madvi ne l'a pas oublié et c'est la bonne nouvelle. Alors bonjour les filles, bonjour Aurélie, bonjour Stéphanie,
bonjour
Madvi, bienvenue à toi. Merci. À table, oui. Avec nous, on est heureuse. Donc ouais, c'est ça, je pensais vraiment à ça quand j'écoutais quand tu nous as partagé ton témoignage. Un peu ton parcours de vie, j'avais vraiment ce passage-là, un arbre planté près d'un courant d'eau. Et puis bah, je trouve ça beau de voir ce que le Seigneur a fait, que ce que tu vas nous raconter d'ailleurs tout au long de cette émission, et de voir que bah, dans ton amour, ton attachement envers le Seigneur, bah, le Seigneur a ta conduite et continue aujourd'hui de te conduire. Tiens, il t'a conduit jusqu'à nous aujourd'hui.
Oui, la radio. Donc, je ne suis pas paumée.
Non. C'est bon, Madvi, tu es sur le bon chemin. Et donc, bah, Madvi, on va repartir en arrière. On va commencer peut-être un peu dans le contexte de ta conversion, une très belle conversion. Et pour commencer, toi, t'es d'origine mauricienne.
Oui.
Et puis, on peut le dire quand même avant, tu es aujourd'hui mariée aussi à ton cher et tendre mari qui nous suit actuellement. Et vous habitez donc en région parisienne. Et donc, voilà, très actif pour le royaume de Dieu et différentes choses. Mais donc, on revient, tu es d'origine mauricienne. Et raconte-nous un petit peu le contexte au moment de ta conversion, puis un petit peu peut-être l'arrière-plan.
Donc oui, comme tu l'as dit, je suis d'origine mauricienne et donc en fait, j'ai commencé à connaître le Seigneur à partir de mes 13 ans. Mm-hmm. Donc en fait, quand mon grand-père est décédé, comme j'étais en fait hindou, on a dû partir à l'île Maurice et donc parce qu'on fait en fait des prières pour le défunt en fait. Et donc je suis partie pour ça en fait. Mm-hmm. Et donc j'ai mon oncle qui est pasteur en Australie, donc qui était à l'île Maurice à cette époque, qui nous a dit, ma sœur et moi en fait, d'aller dans une église. Et comme en fait à l'île Maurice on prie un peu tout, donc prier Jésus, pour moi je le faisais déjà, mais bon, du coup c'était pas quelque chose qui m'effrayait ou qui était en dehors de mes convictions en étant petite. Mm-hmm. Donc on est parti à l'église. Et je me suis avancée, mais j'avais pas compris en fait l'appel, puisque comme je vous le disais, c'était normal. Donc voilà. Et c'est en revenant en fait en France, donc 2 ans après, que j'ai donné ma vie à Jésus.
Donc t'avais 15 ans.
Donc j'avais 15 ans. Donc j'avais 15 ans. Ouais.
Et t'étais hindou avant.
Oui, j'étais hindou. Ouais.
Est-ce que tu pratiquais cette religion?
Oui. Je pratiquais, mais je ne comprenais pas beaucoup, en fait. Bah, parce qu'en fait, l'hindouisme, il parle beaucoup hindi. Moi, je suis née en France. Donc déjà, le créole, je le parle très mal. Donc, puis le hindi, je le parle quasiment pas du tout, quoi. Donc ça fait que les prières, tout ça, bon, on le faisait, mais on comprenait pas forcément ce qu'on disait. Mm-hmm. Et, j'aimais, en fait, on va dire Dieu, mm-hmm. en étant petite. Et puis un jour, je me rappelle, j'avais dit, puisqu'en fait, chez moi, dans l'appartement où on était, il y avait un côté pour les dieux hindous, et puis un côté pour les dieux un peu chrétiens, catholiques, tout ça.
Ok.
Donc un jour, je me suis retournée vers la croix de Jésus. J'ai fait « Seigneur, un jour, je serai chrétienne.
Oh. »
Oui.
Wow.
Parce que justement, j'étais plus attirée en fait, vers le christianisme plutôt à cause justement de cette barrière de
la langue. Et à 15 ans,
À 15 ans, qu'est-ce qui se passe?
À 15 ans, on a déménagé. Donc là, on n'est plus dans la même ville. Mes parents ont acheté un pavillon parce que j'ai 5 sœurs. Donc ça faisait quand même pas mal de monde dans la maison. Et un jour, en fait, mon père, il faisait que des accidents sur accident, tomber des escaliers, enfin, rien n'allait dans sa vie, dans la nôtre, même dans la famille et tout. Et puis un jour, en fait, j'ai rêvé, et puis ma grande sœur aussi, et puis ma mère aussi a rêvé, enfin, on a fait le même rêve, on a rêvé que notre père allait décéder, en fait. Et ma mère, en rigolant, elle appelle son frère.
Le pasteur d'Australie?
Voilà, c'est ça. Et elle lui dit, oh, tu sais, ton beau-frère va mourir. Et, je suis rigolante.
Sacré humour dans la famille.
Ouais. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que mon oncle lui dit, non. Parce que lui aussi, il a eu cette révélation et tout. Et puis, il dit, mais non, en fait, il faut vraiment que tu t'abandonnes à Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Il faut que tu laisses tout ce que tu es en train de faire. Donc, enfin, tous les rites que tu es en train de faire. Et en fait, il faut vraiment que tu attrapes le pied de Jésus, toi, toute ta famille. Parce que sinon, ce sera la catastrophe pour tes filles. Ce sera la catastrophe pour ton mari va décéder et tout, parce qu'apparemment on avait fait de la sorcellerie sur nous, en fait. Et en vrai, toutes mes sœurs et moi, on devait avoir une vie de débauche, etc. Donc vraiment, pour être sauvés, on avait besoin de Jésus. C'est comme ça, en fait, que familialement, en fait, on s'est convertis tous.
Vous êtes venus à Jésus.
Nous tous, on s'est...
Ouais. Tes sœurs, genre, parce qu'il y a 5 sœurs, donc vous êtes 6 filles. Et c'est vous, les 6, vous avez cru, on a besoin de donner notre vie à Jésus.
Même ça, mes sœurs, c'était beaucoup plus petit, parce que moi, j'avais 15 ans, donc je suis parmi les plus grandes. Donc elles étaient un peu plus petites. Mais en fait, du coup, quand on a commencé à suivre Jésus, elles aussi, sont parties à l'église, etc. Et après, elles sont baptisées un peu plus... plus loin dans les années.
Mais là, toi, du coup, à 15 ans, c'est une vraie décision pour Jésus que tu prends.
Oui.
Tu sens qu'il y a un avant et un après, que ta vie a changé à ce moment-là.
Ah oui, mais j'ai vraiment senti, en fait, le ciel, en fait, descendre clairement, parce qu'on était tellement... on avait un contexte un peu familial, un peu compliqué. Et sur le coup, ça m'a... c'est comme si, comme si la lumière était venue dans ma vie. Et c'est ce que je te disais l'autre jour, Annabelle. C'est vrai que quand j'étais plus petite... Donc avant même ma conversion, avant même d'aller à l'île Maurice à mes 13 ans, j'avais fait un rêve. Et en fait, je me suis dit, moi quand j'étais petite, j'étais quand même très pieuse. Donc je me suis dit, il faudra quand même que j'apprenne en fait les choses de ma religion, parce que nous on a un livre chez les hindous. Et du coup, je me suis dit, vas-y, il faudrait que je le lise. Et je voulais aussi lire la Bible. Je voulais lire les deux, parce qu'on faisait les deux. Donc, je voulais lire les deux. Et justement, dans ce rêve, j'avais ouvert en fait le livre des hindous. Et c'était tout noir, il faisait sombre, et c'était vraiment, c'était effrayant et tout dans mon rêve. Et à un moment, il y a la Bible qui est descendue et qui a éclairé en fait toutes ces ténèbres. Et du coup, finalement, j'ai jamais lu le livre hindou, et j'ai commencé justement après à lire en fait, parce qu'on avait une Bible, et j'ai commencé à lire la Bible.
Ouais, c'est hyper beau en fait, comment t'aimais
toute la famille.
Mais c'est comme t'aimes Dieu souvent. On entend genre des témoignages où enfant, tu cherches Dieu, mais tu le fais avec ce qu'on propose en fait. Mais là, 15 ans quand même, c'était chouette que vous ayez pu vous donner au Seigneur à ce moment-là. Et du coup, à 15 ans, toi, tu commences, t'es à fond.
Parce que moi, c'est vraiment un bouleversement, en fait. Parce qu'en fait, j'étais très timide, j'étais très réservée. J'étais un peu dans mon coin. J'avais du mal en fait à m'ouvrir aux autres. En fait, j'avais besoin en fait de faire confiance, de voir. Je suis quelqu'un que, comme, qui regarde beaucoup. Et une fois que je me sens en confiance, là, je me lâche un peu et tout. Donc, voilà. Et donc à 15 ans, moi, ça m'a changé en fait. Bon, après, il y a encore des choses quand même parce que j'ai quand même un lourd background. Donc, il fallait qu'il passe par là pour délivrer certaines choses. Mais sur le coup, ça. Ça a vraiment, Dieu m'a vraiment réparée en fait. Voilà, c'est vrai que quand j'étais plus petite, j'avais quand même une relation avec mes parents qui était un peu, surtout avec ma mère qui était un peu plus compliquée, on va dire. Donc c'est vrai que quand j'étais petite, j'avais des mots assez durs d'elle. Et c'est vrai que ça a fait que ça a quand même pas mal eu un impact sur ma vie, notamment la timidité, de ne pas avoir confiance en moi, de me sentir pas aimée, de me sentir rejetée. Toujours de me dire, est-ce que c'est bien, c'est pas bien ce que je fais, me poser 10 000 questions. Et c'est vrai que c'était compliqué à un moment. Mais Dieu est passé par là, tu as guéri et ça va, quoi.
Et tu as commencé à servir assez rapidement aussi.
Ah oui. Peut-être pas les 3 mois, parce qu'on est parti dans une église à côté de la maison. Donc là, on regardait tout ça, machin. Mais par contre, le parler en langue, je l'ai eu au bout de 4 mois.
Ok.
Ouais, donc j'étais baptisée du Saint-Esprit assez tôt. Et par contre, je voulais tout de suite me faire baptiser. Pour moi, c'était une évidence. C'était une évidence, le baptême, c'était pour moi super important de le faire. J'ai eu pas mal d'obstacles. J'ai dû attendre quand même que j'arrive dans l'église où je suis aujourd'hui. Pour le faire, j'ai attendu quand même 2 ans après pour...
C'était, ah ouais.
C'est ça, la vie, il y a des combats. Voilà. Mais oui, et puis donc du coup, par rapport au service, oui, j'ai commencé dans l'église, pas celle où je suis, mais celle d'avant. Et en fait, on faisait la chorale à la maison. Et j'avais commencé à apprendre la guitare et tout, donc... Franchement, c'était vraiment une expérience magnifique parce qu'en fait, chez nous, on faisait pas grand chose, donc on n'avait pas forcément d'activité. Et donc, le fait en fait de commencer à servir, c'est comme si je revivais, quoi. Je pouvais faire des choses. J'aimais le chant, donc je commençais à chanter, j'aimais les instruments, je commençais à prendre de la guitare. Mais pour moi, c'était vraiment quelque chose de magnifique. C'est-à-dire qu'en vrai, comme je faisais rien, à part les devoirs, et là, en fait, je pouvais faire quelque chose d'autre, quoi. Et surtout, c'était des choses que j'aimais et que j'avais toujours envie de faire, mais c'était vraiment un rêve, même en étant plus petite, en fait. Moi, chanter, je me rappelle, j'écrivais des chansons. Et là, franchement, je rentrais pile poil dedans, donc c'était vraiment comme si, en fait, c'était vraiment la vie qui venait à moi, quoi.
Est-ce que ça a renforcé ta relation avec Dieu, du coup? Le fait d'avoir commencé à servir, de te déployer quelque part pour lui, comme ça.
Oui, et tout à fait, parce que pour moi, en fait, le service, c'était vraiment de se donner, en fait, pour Dieu. Comme lui, il s'est donné en vrai, et je me suis dit, moi, ma vie, finalement, elle est pour le Seigneur. Donc, le service, en vrai, pour moi, c'est vraiment une adoration, tu vois. C'est pas simplement, je sers, c'est juste une activité, et puis c'est tout, quoi, non. C'est vraiment une offrande que j'offre à Dieu. Et vraiment, quand je le fais, je le ferai vraiment avec mon cœur. Et tout ce que je veux faire pour lui, tout ce que je fais pour lui, ce qu'il me demande de faire, en fait, je veux vraiment être disposée à le faire et le faire vraiment avec tout ce que j'ai, mes tripes et tout, parce que ça, c'est vraiment pour le Seigneur que je le fais. Et je veux qu'il agrée, en fait, surtout, c'est ça. Qu'il agrée mon offrande. Donc, qu'il agrée le service que je lui donne, en fait.
T'as rencontré le Seigneur aussi, t'avais 15 ans.
Moi, j'avais 15 ans, oui.
Mais est-ce que t'as commencé, toi, sérieux?
Ah, j'étais à fond.
Ah, ouais.
Mais moi, en plus, je venais d'un arrière-plan où il n'y avait personne qui était. Personne n'avait donné sa vie au Seigneur à cette époque-là. Et moi aussi, je t'écoutais et je me disais, moi aussi, ça a pris quelques années parce que ça fallait que j'attende la majorité pour pouvoir me faire baptiser parce que mes parents ne voulaient pas.
Okay.
Mais malgré tout ça, j'étais à fond. Moi, j'étais de tous les combats dans le sens que même, je ne sais pas, je ne vais pas prendre la place de notre invité, mais moi, tout ce que ma mère trouvait à faire, le café, et à cette époque-là, tu sais, il y avait les transparents, les acétates, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, avant les PowerPoint. Alors,
j'ai connu
vous êtes
aussi.
Trop jeune.
Non, merci.
Connu.
Merci.
Je l'ai fait.
Ah, ça, c'est quand il y avait le service de louange, tu vois, la personne qui était, c'était un rétroprojecteur et tu mettais un transparent, un acétate, pour que les gens puissent lire les chants.
Tu sais.
Mais Tu sais, ben non, je suis trop jeune. Alors, je m'adresse à quelqu'un qui écoute l'émission, qui a plus de... Et en fait, c'était comique parce que Pasteur Claude, tu vois comment... C'est... Pasteur Claude était venu prêcher à notre église à cette époque-là. Et il avait dit... Et moi, en plus, celui qui faisait la louange, ça allait super rapidement, mais tu n'avais pas la liste de chants, donc c'était par ordre alphabétique. Donc, louons Jésus, elle, on le mettait... Puis là, moi, j'étais... Tout ce que ma main trouvait à faire. Et j'ai été nommée l'acétateuse la plus rapide du Québec. Ne sous-estimez pas les petits commencements. Mais j'aime le raconter parce que Pasteur Claude est devenu mon pasteur plus tard. Mais dès quand tu t'aimes le Seigneur, comme tu dis, tu veux faire lui offrir un sacrifice, un service pour lui plaire, que ce soit dans les petites et les grandes choses. Mais moi, je pense que Dieu m'a vu derrière mon truc à acétate, puis a dit, ah, elle me sert avec excellence, mais plus tard, je vais lui confier de plus grandes choses.
Ouais, donc, c'est pas un fardeau,
le service, non, de le faire tout ce que... Et ça, c'est vrai que le service, ça glorifie le Seigneur. Et puis, il ne faut pas avoir peur de commencer à servir dans l'Église à... Toutes sortes de choses.
Ouais, 15 ans.
En tout cas, vous êtes passé à côté de n'importe qui. La cétateuse la plus... que tous les Français me pardonnent ce terme, d'ailleurs.
prochaine conférence, on va te redonner un vidéoprojecteur. OK, on te met à l'épreuve, on me défie.
Mais c'était une fierté personnelle d'y arriver.
Et donc, si on revient un peu au service de vie, donc tu as commencé dès que tu étais jeune. Et aujourd'hui, tu es... je ne sais même pas c'est quoi exactement tout ce que tu fais, ni le titre précis, mais tu as pris en charge, je crois, tout ce qui est diffusion au niveau de l'Église. Alors, on sait que maintenant, dans les Églises, la diffusion, c'est devenu un département assez central, surtout après le Covid. Et donc, c'est ça, maintenant, tu as avancé. Je ne sais pas si tu fais encore de la louange.
Oui, je fais encore de la
louange. Tu fais encore la louange ?
Ouais, un peu moins, parce que ça me prend, du coup, le service me prend quand même pas mal de temps.
Mais du coup, tu as dans toutes ces années maintenant de vie chrétienne, on voit que tu t'es pas arrêtée et que même tu as acquis de nouvelles compétences pour pouvoir servir Dieu d'une façon qui lui soit agréable. Mais est-ce que tu as eu des moments où le service est devenu peut-être un poids ou quelque chose de lourd dans ta vie ?
Oui. Des fois, c'était un peu compliqué parce que c'est vrai que quand j'ai pris en charge justement la partie média, c'était un peu lourd parce que j'avais déjà une autre partie, c'est tout ce qui était communication. Donc plus ça qui s'est rajouté, donc ça fait quand même j'avais quand même une équipe avec plusieurs services, mais en tout, on était à peu près une soixantaine de personnes. Donc du coup,
tu dirigeais 60 personnes.
Oui. Wow. Et donc du coup, c'est un peu, ça me prenait beaucoup de temps. Mais parce que aussi les gens, il faut savoir aussi les driver, savoir aussi les amener aussi à eux à développer leur potentiel. Parce qu'on n'est pas simplement leader, en fait. Et à un moment, je me disais, parce qu'en fait, la partie internet, la partie communication, comme en fait, tout était pratiquement nouveau, donc il fallait toujours le mettre en place. Donc c'est vrai qu'on a commencé, on n'était pas forcément beaucoup. Mais bon, Dieu fait grâce et Dieu bénit les petits commencements, en fait. Et j'ai dit, bon, j'ai crié à Dieu, je vais bon, c'est-à-dire envoie des ouvriers quand même. Parce que la vision, tu me l'as donnée.
Est-ce que tu étais formée dans ce domaine-là de communication ou tu as commencé comme ça?
En fait, moi, j'ai un master en marketing.
Bon, ben quand même. De base. Quand même, ça part bien.
Donc oui, et puis après, le Seigneur, dans ma vie personnelle, m'a montré en fait que vraiment tout ce qui était digital... Okay. Je sais pas pourquoi j'ai un amour pour ça, qui est né comme ça, qui a grandi dans mon cœur. Et finalement, après, j'ai compris que le Seigneur m'appelait aussi à ça dans mon église. Et c'est vrai que, du coup, pour revenir à ce que tu m'as demandé, c'est que la charge était un peu lourde. Parce qu'il y avait tellement de choses. En fait, quand ça vient de Dieu, Dieu t'inspire tout le temps, en fait. Donc, t'as plein d'idées qui te viennent. Mais après, il faut savoir le temps. Et moi, je suis quelqu'un que, quand j'ai quelque chose, il faut que je fasse tout. De faire les choses rapidement, pour voir le fruit. Et voilà, quoi. Quand je vois que ça traîne, j'aime pas trop, quoi. Finalement, mon Dieu m'a montré que non, en fait, c'est étape par étape. Si ça vient pas tout, c'est pas grave. La vision, elle est là, en fait. Et elle s'accomplira, quoi qu'il arrive. Donc j'ai appris aussi à être patiente, à être patiente vis-à-vis de moi,
Et des voilà. autres.
Et des autres aussi, parce que c'est vrai que voilà, quand on est beaucoup à servir et que, en fait, chacun a son étape avec le Seigneur, chacun en fait a sa vie avec le Seigneur et on n'est pas au même endroit en fait. Mm-hmm. Et quand on est leader, on doit aussi être souple à ça et pouvoir porter aussi les gens là où Dieu aussi les demande, enfin la façon dont ils doivent servir aussi. Et puis aussi, il faut qu'ils s'épanouissent aussi dans le service. Je ne peux pas être un bourreau. voilà quoi. Et,
bravo, ma vie.
J'ai appris. et puis bon, après, Dieu m'a appris aussi à être patient aussi vis-à-vis de mes équipiers. Parce qu'il m'a dit aussi, il m'a dit, regarde, t'étais comme ça, je t'ai changé, je t'ai transformé, ça a pris quand même du temps. Toi aussi, sois bienveillante en fait. Agis en fait comme moi, j'aimerais que toi tu agisses, comment Dieu agit vis-à-vis de moi, mm-hmm. Agis de la même façon vis-à-vis des autres. Mm-hmm. En fait, ce que tu as reçu, tu le donnes et tu le donnes avec bienveillance, avec amour et beaucoup de patience.
Comment je remarque surtout depuis le Covid qu'il y a beaucoup de gens qui servent dans l'église qui sont très fatigués. On n'a jamais, j'ai l'impression, entendu autant de personnes qui sont complètement épuisées par le service. Et je crois qu'il y a une réalité qui est là par rapport à l'état physique et émotionnel. Mais je crois aussi qu'il y a comme un piège, une espèce de vent diabolique qui est là aussi pour décourager tous les ouvriers et que du coup il y avait cette fatigue qui était là surtout après le Covid parce que la façon de travailler était tellement différente, l'église a changé, etc. Et puis après cette espèce de retour à la normale mais avec un poids pour les médias qui était plus intense parce que finalement on s'est développé pendant le Covid donc on va pas arrêter maintenant, du coup ça a rajouté comme une espèce de charge mais je crois quand même que l'ennemi s'est infiltré, surtout chez des personnes quelquefois qui avaient tendance à l'activisme ou à l'activisme et qui avaient peut-être aussi tendance à se cacher derrière le service et à ne pas se remplir, à ne pas avoir cette intimité avec le Seigneur. Et du coup, ça a créé ça a créé beaucoup de fatigue. Et puis, comme ça devient après très contagieux dans les équipes, je suis fatiguée, moi aussi je suis fatiguée, je suis débordée, j'en peux plus, etc. Et je crois qu'on doit faire attention en tant que leader de pas en mettre trop, mais aussi de raviver en fait cette flamme pour le service parce que il y a une vraie joie dans le service et la solution quand on vit ce moment de fatigue, c'est pas systématiquement de dire faut arrêter le service parce que quelquefois tu vas dire à la personne arrête le service mais en fait t'es en train de le priver de la grâce et de la bénédiction que va être le service parce que tu te dis il est fatigué, faut qu'il arrête, mais en fait c'est peut-être quelque chose dans la mentalité à changer, un mensonge qui a été accepté puis qui vient aspirer toutes l'énergie qui vient inspirer toute la force. T'arrives à l'église, c'est que... Alors, tu repenses à toi quand tu venais de te donner au Seigneur, ce premier amour qui te portait, qui te transportait, qui te faisait voir toutes les montagnes comme des défis. Oui, mais nous allons tout accomplir. Bon, il y avait peut-être un peu de folie, mais je crois qu'on a peut-être perdu un peu cette folie du premier amour et qu'à tomber trop dans la réflexion, dans une espèce de performance, etc., ça vient voler la joie du service. Et je crois qu'en tant qu'église, l'église en général doit se réveiller à ce niveau-là et de ne pas se faire voler parce qu'on est fait pour servir, pas de façon excessive, mais ça doit, comme tu l'as dit, ça génère de la joie parce que c'est une offrande et c'est une adoration en fait. Et par rapport à ce que tu dis, Annabelle, c'est que en fait, le Covid a gardé les gens à la maison. Ouais. Du coup, il y a beaucoup qui n'étaient plus habitués tout simplement à aller à l'église pour faire quelque chose. Et ce qu'on assiste, même pour les personnes qui ne servaient pas, c'est qu'après le Covid, il y a des gens qui ont du mal à revenir à l'église, juste revenir dans l'église. Donc, tu imagines revenir et servir, ça fait comme deux
actions majeures.
Deux choses à faire. Et moi, je vais encourager les gens à ne pas rester là parce que, sincèrement, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et si on ne le sert pas. Dans le sens que, quand j'écoute aussi l'histoire de Madvi, on voit bien que c'est en fait l'amour qu'elle a eu pour Dieu la pousse en fait. C'est comme si c'est même pas un service, comme elle a dit, c'est un don. Parce qu'il t'a tout donné, t'as envie de donner quelque chose en retour. Et c'est ça qui pousse et c'est ça qui porte. Donc chaque fois que je vois quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu, mais qui ne sert pas personnellement, j'ai du mal avec ça. Pas dans le sens qu'on n'est pas obligé d'être à l'église en train de faire quelque chose, mais la relation avec Dieu va faire en sorte que tu as ce désir de le servir, tu as ce désir de faire des choses pour le Seigneur. Et le Seigneur, il va te mettre des choses à cœur. C'est aussi ça la relation. C'est que le Seigneur va te montrer des choses, il va te mettre des choses à cœur, à faire. Et alors que tu es en train de le faire, mais tu vas voir que, comme tu as dit, il y a des grâces qui sont rattachées à ça. Il y a la fidélité dans cette petite chose va t'amener plus loin dans d'autres choses. Il y a même des personnes, moi je suis née de nouveau, je suis allée dans une église où on sert vraiment beaucoup. Il y a même des personnes sur leur CV d'emploi, mais c'est ce qu'ils faisaient à l'église qui a fait la différence. Parce qu'on s'est rendu compte que là où peut-être ils travaillaient avant, ils n'avaient pas ces équipes pour diriger, ils n'avaient pas ces aptitudes, n'étaient pas forcément mises en avant. Mais à l'église, ces personnes se retrouvent être des personnes qui gèrent des petites équipes, qui font différentes choses. Et c'est des choses qui les ont qualifiées même pour des emplois séculiers.
Absolument.
Donc il y a des grâces qui sont rattachées à ça. Il y a une formation qui est rattachée à ça parce que aussi le frère va aiguiser le frère quand on sera en train de servir. Et tout ça, ça favorise la croissance du chrétien. Et si tu te fermes au service en disant « Ah mais non, de toute façon, c'est trop dur, les gens sont comme ci, comme ça. » Mais ce qui se passe, c'est que tu te prives d'une croissance que le Seigneur a prévue pour toi. Donc à tous ceux qui ont été choqués par le Covid, qui ont été déroutés quelque part par cette saison, revenez. Et même s'il faut changer de département, de type de service, revenez, mais remettons-nous à l'œuvre et en action pour le Seigneur.
Et moi, je pense qu'il y a un piège aussi, c'est que souvent, quand on sert beaucoup, on devient fatigué et là, nos regards changent. On a l'impression que c'est nous qui faisons tout. Moi, c'est ce que, et ça, c'est un piège. Et c'est aussi la vérité parce que la statistique, c'est 20% des gens dans nos églises qui servent. Donc, ça finit que ce soit toujours les mêmes. Mais des fois, on peut être frustré, mais au contraire, de dire, regarde, c'est partout comme ça dans les églises. Est-ce que ça ne veut pas dire que je ne peux pas inviter quelqu'un à venir servir avec moi au lieu de dire, je suis frustré parce que c'est toujours les mêmes? Je sais que les femmes qui écoutent cette émission-là, elles sont spirituelles, elles se disent pas ça, mais des fois, on peut avoir l'impression que c'est toujours, toujours nous. Mais peut-être de dire, écoute, Seigneur, donne-moi, mets des gens sur mon chemin, que je pourrais tendre la main, qu'ils puissent venir s'impliquer, une équipe de 60 personnes. C'est qu'il y a des gens qui ont tendu la main. Et moi, c'est au contraire. C'est vrai que le faire aiguise le faire, et le frère aussi. Mais je trouve, c'est l'inverse. Moi, quand je vois, en tout cas, pour moi, mes années à l'Église, quand j'ai servi et je sers encore, et qu'on vit des moments de victoire ensemble, ça tisse des liens incroyables. Tu sais, que ce soit dans les grandes conférences qu'on a faites, de l'accueil, à servir le café, à l'intercession. Et moi, j'ai vu des femmes fleurir, même dans des œuvres humanitaires. Quand on est allé visiter des enfants malades, des femmes vivaient des choses très, très difficiles. Et quand elles servaient dans ce ministère-là, c'est comme leur fardeau tombait, puis ça redonnait espoir. Donc, le service, c'est une clé pour fleurir. Puis, bien sûr qu'on va avoir des comptes, peut-être, je dis bien sûr, mais peut-être que non. Moi, je trouve qu'au contraire, ça peut tisser.
Oui,
moi,
oui, peut-être que non.
Laissez-moi rêver, laissez-moi rêver.
En tout cas, moi, peut-être que non.
Non, peut-être que non. J'étais 20 ans, tu sais, en direction d'un ministère féminin et des femmes ensemble, des fois, ça peut. Mais je te dirais que majoritairement, ça nous a mis en équipe. Mm-hmm. On s'est réjouis de voir Dieu agir, de voir des femmes restaurées, des femmes revenir à Dieu.
Mais c'est ce que tu dis, c'est majoritairement, et puis c'est là où il ne faut pas se laisser voler sur des petites tensions, un petit truc qui m'a déplu, parce que quand on prend du recul, le fruit est positif en fait, et puis d'avoir la joie de voir ce qui a été accompli pour le Seigneur, c'est super, tu vois. Comme toi, Malvie, si tu prends un pas de recul et que tu n'es pas en train de regarder tout ce qui n'a pas encore été fait, tout ce qu'il y a à faire, etc., tu te dis, on a avancé en fait, même depuis le Covid, vous avez beaucoup avancé au niveau du service. Et je vais te demander aussi, Madvi, est-ce que toi, tu as remarqué au niveau du service que les gens pouvaient avoir plus de réticence aussi à faire, comme on l'a dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Est-ce que tu trouves que c'est encore quelque chose qui est d'actualité ou que les gens sont devenus un peu plus exigeants ou pointilleux sur ce qu'ils veulent faire dans, dans l'église?
C'est un peu des deux. Mm-hmm. Mais moi, je trouve que les gens, il faut les motiver, en fait. Mm. C'est, des fois, en fait, on veut tout le temps être en haut. Alors que non, avec Dieu, en fait, on commence en bas. Déjà, Dieu veut voir notre fidélité, en fait. Bon, et Dieu ne va pas te donner quelque chose. Il ne va pas te mettre déjà en haut, en fait, si en fait, tu es orgueilleux, si encore tu as encore des problèmes à régler, en fait. Il te demande de faire les choses. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Stéphanie, voilà, tu sers le café, tu fais le ménage, tu fais les choses comme ça. Et c'est vraiment, c'est honorifique et ça glorifie le Seigneur. Mm-hmm. Et moi, je trouve que les gens, en fait, ils veulent servir quand ils veulent. C'est non, je suis pas dispo. Il y a pas cette notion de sacrifice ou de se donner vraiment pour Dieu. C'est vraiment selon son planning, selon ses activités. Est-ce que j'ai une sortie, j'ai pas une sortie. Voilà, là je pars en vacances ce week-end, donc je peux pas servir. Voilà, c'est vraiment en fait on met notre vie avant et on met pas Dieu avant. Enfin, moi j'ai beaucoup remarqué ça ces derniers temps.
Et toi, comment est-ce que tu fais pour un petit peu inverser la tendance?
Je leur fais un câlin. Mais non, mais voilà. Bon, après, moi, je ne mets pas beaucoup les personnes. J'essaie de les faire tourner au moins une à deux fois selon les services, puis les plusieurs services. Mm-hmm. Voilà, pour ne pas les épuiser non plus. Donc, après, j'ai un bon noyau sur qui vraiment j'ai mes soldats. Voilà, quand je demande quelque chose, je sais que je peux compter sur eux. Et puis après, j'essaie d'échanger. Voilà, je fais bon, là, s'il y a un tel qui est là, on échange avec l'autre personne pour que ça ne fasse pas trop. Donc après, je leur dis, bon, est-ce que... Enfin, leur faire un magnifique sourire.
Oh.
S'il te plaît, il n'y a personne. Et puis bon, finalement, voilà, le sourire fonctionne. Et puis...
Ah, waouh. Wow. Voilà. Maintenant, après l'émission, j'espère sourire. Que tu pourras garder ton arme.
Il y a la notion, oui, peut-être, d'un mec qui veut commencer en haut, mais moi, j'ai vu aussi beaucoup de femmes qui étaient aux prises aussi avec le syndrome de l'imposteur. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on leur demande, mais c'est comme si, oh, je serais jamais à la hauteur.
C'est vrai, oui.
Et une anecdote comme ça, beaucoup connaissent Raymond Bernard qui organise les grands événements avec Événementiel. Quand j'ai commencé à voyager, à tourner avec elle, on faisait des appels. Puis là, je disais, il y avait tellement de monde en avant. Je dis, Raymond, j'étais tout seul. Je dis, Raymond, viens m'aider pour prier. Elle m'a dit, non, je ne peux pas. Je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas si. Mais j'ai dit, la Bible dit, priez les uns pour les autres. Y a pas. Et elle avait peine à aller parce qu'elle ne sentait jamais à la hauteur. Et aujourd'hui, elle fait plus que prier. Elle organise des grands événements. Mm. Je la voyais parler au micro récemment. Et je pense que ça aussi, on parle beaucoup d'appels, de destinée, puis tout ça, puis on se voit. Mais de commencer de briser ce syndrome-là, mm-hmm. puis de faire un pas de foi, de dire peut-être que le Seigneur m'appelle à diriger un petit groupe, peut-être m'appelle à mettre sur pied des œuvres humanitaires. Je ne sais pas, d'arrêter de s'abaisser aussi, puis de dire, oh, je ne suis pas à la hauteur, puis tu sais, de faire nos Moïse, puis tu sais, je ne sais pas parler, qu'est-ce que tu as dans tes mains, j'ai rien. Mm-hmm. Et moi, je pense que ça, c'est aussi une clé de réaliser que Dieu a donné des dons, puis d'aller chercher c'est quoi nos désirs. Qu'est-ce qui fait vibrer? Puis dans les églises, il y a plein de places où on peut servir et c'est oser le faire.
Ouais. Moi, je dis souvent que quand tu constates quelque chose, c'est fort probable que tu sois une partie de la solution de cette chose-là.
Il y a des gens qui constatent beaucoup de choses, si c'est Aurélie.
C'est fort probable qu'ils soient une partie de la solution. Et parfois, justement, au niveau du service, on va constater des choses qui ne vont pas. Mmh. Et on ne va jamais se positionner comme le solutionneur des choses qui ne vont pas. Parce qu'on va se dire, de fait, que le responsable n'a qu'à tout voir, il n'a qu'à tout gérer. Lui, il est responsable, c'est son rôle. Mais l'Église, c'est vraiment comme une famille. Et quelquefois, on ne le réalise pas, mais c'est une famille. Et c'est comme si on est quelque part dans la même maison. Et dans la même maison, mais si tu vois un papier par terre, ben, t'attends pas que ce soit ta mère qui vienne absolument ramasser le papier. De fait, c'est chez toi. Tu vas prendre le papier et puis tu vas le ranger ou tu vas le jeter à la poubelle, je sais pas. Mais je crois que c'est parfois aussi cette mentalité qui manque, c'est que tout doit reposer sur un leader ou sur un responsable. Mais si tu as vu quelque chose, oui, il faut en parler avec le leader et le responsable, mais pas dans un but d'accusation, dans un but de « mais comment on peut faire pour que cette situation à l'église ne perdure pas, pour que cette situation soit changée et comment je peux aider dans cette donne-là ?» Moi, je suis convaincue que parfois, on ne réalise pas que c'est même le Saint-Esprit qui nous fait voir les choses. C'est juste qu'on analyse avec nos yeux humains, mais vraiment, si tu constates quelque chose qui t'irrite, qui revient à chaque fois, commence même à te dire, mais et si c'est Dieu qui me montre cette chose-là? Et si Dieu te l'a montré, c'est fort probable qu'il veut t'utiliser pour être une solution là-dedans. Donc, il ne faut pas se fermer.
À part des gens qui vont aller dire, je ne vois rien, je ne vois aucun problème, tout va bien.
Il
n'y
aura plus de plainte, ça va. Mais il ne faut pas se fermer, en fait. Il faut vraiment se dire, le Seigneur veut m'utiliser. Et si je suis un instrument, ben, il peut m'utiliser où il veut, comme il veut. Par contre, ne voyez pas juste ce qui ne fonctionne pas dans le groupe de louanges, dans les services très visibles où on est sur le podium. Et tout, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont attirées par ce genre de choses. Et suivons le protocole de l'église. Il y a des églises où, pour servir par exemple à la louange, il faut peut-être passer par tel endroit ou tel autre. Si tu as vraiment le cœur de servir, suis le protocole qui est instauré. Et c'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un qui est un serviteur plus que quelqu'un qui veut se produire ou se positionner, en fait. Donc, c'est des choses que, quand on le dit, ça peut faire mal un peu. Mais sincèrement, si on a un cœur pour Dieu, on est ouvert à ce genre de choses-là.
Et il y a eu des moments aussi, Madvi, toi-même dans ta vie personnelle, où tu as pu vivre certains défis dans ta vie. Et pourtant, tu as continué de servir. Et comment est-ce que tu as réussi à faire ça et à continuer de relever en plus des défis assez majeurs dans le service, parce que tu es une visionnaire au final. Mais comment est-ce que tu as réussi à continuer alors que toi-même, dans ta vie personnelle, tu aurais pu être découragée et puis te dire bah non, c'est bon, moi, c'est fini, c'en est trop.
Je me suis accrochée à Dieu. Après, quand Dieu donne une promesse, il l'accomplit toujours. Ça, c'est quand Dieu te donne une vision, s'il te l'a donné, c'est pas pour rien. Si il te l'a donné à toi, c'est pas pour rien. C'est que c'est toi qui es mandataire pour le faire, en fait. Et donc, c'est vrai que je suis passée vraiment par des temps vraiment un peu compliqués au niveau de ma santé. Je vais faire très court. Mais c'est vrai que voilà, on m'a détecté quand même. On m'a détecté de l'endométriose et de l'adénomyose. Donc, c'est vrai que. Donc, c'était à mes 30 ans. Et c'est vrai que, pour le coup, ça m'avait pas mal handicapée dans ma vie au quotidien. Par contre, j'aime ce verset qui dit en fait, je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est vraiment ça, en fait, que moi j'ai vécu. C'est-à-dire que quand je vais à l'église. Quand je vais le servir, je sais pas, mes forces sont décuplées. Je suis là, je passe de la régie à devant, je marche, je cours, tout ce que j'arrive pas à faire en temps normal en fait. Dieu en fait me fortifie, Dieu me donne vraiment cette grâce de pouvoir le servir en fait. Et par contre, quand c'est fini, quand je rentre chez moi, là, je suis alitée. Je veux dire, mais en fait, Dieu me remplit tellement que j'arrive à faire tout ce qu'il me demande de faire, en vrai. Donc voilà, peut-être qu'il y a une huile spéciale pour le service. mais malgré ça, en fait, même à dire que je sers aussi de la maison, voilà, tout ce qui est un peu communication, on fait beaucoup de choses en fait à distance. Ce qui me tient en vrai, c'est vraiment l'amour pour Dieu. Je me dis, si je le fais, c'est vraiment pour le Seigneur. Et puis, comme je l'ai dit aussi, il y a la promesse de Dieu qui est là, en fait. Et puis finalement, c'est prendre aussi le temps de se reposer.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a, il y a un temps pour tout. Ecclésiaste nous dit bien, en fait, il y a un temps pour chaque chose. Et ça, en fait, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, il faut comprendre aussi que servir, c'est bien. Il faut servir Dieu, vraiment. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps possible pour passer du temps avec sa famille. Il ne faut pas non plus négliger sa famille. Il faut du temps avec son mari, il faut du temps avec ses enfants, du temps avec les autres aussi de notre entourage. Voilà, c'est ça en fait. Mais puis Dieu aussi me l'a montré au travers de la maladie, de dire de ralentir un peu, de prendre du temps aussi pour moi, c'était important. Parce que des fois, on a l'impression de toujours... On a toujours besoin de s'effacer, parce que c'est toujours une prière qu'on demande à Dieu. Oui, je vais m'effacer pour que toi, tu grandisses, pour que... Voilà, et puis on veut faire. Et puis finalement... Même le service, trop de service, tue le service, en fait. Voilà. Clairement, Dieu nous demande aussi de faire attention, voilà, d'être équilibré, d'être harmonieux, en fait, dans tout ce qu'on fait, de peser, en fait, les choses. Donc, voilà, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il ne veut pas, en fait, qu'on soit malade, il ne veut pas qu'on soit fatigué non plus, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il veut qu'on fasse les choses avec joie. Et quand on est fatigué, c'est vrai que, voilà, des fois, la chair prend le dessus, voilà, on a moins de recul, on s'énerve peut-être un peu plus vite. on rouspète, on voit que les choses qui ne vont pas, comme vous l'avez dit, les filles. Et puis finalement, quand c'est comme ça, bah, remettons-nous au pied de la croix, recherchons vraiment la source. Donc c'est Dieu qui nous ressource, c'est Dieu qui nous fortifie, c'est Dieu qui nous renouvelle. Et puis si quelqu'un est fatigué, voilà, qui nous écoute, bah, qui reçoit en fait maintenant le renouvellement de Jésus en fait. Amen. Parce que des fois c'est vrai qu'on est à terre et que des fois il faut faire attention, parce que même si on est chrétien, on peut en fait tomber en burn-out, on peut être dans la dépression. Et moi j'ai connu des gens qui servaient tellement, qui étaient appelés en fait à faire des services, et que du jour au lendemain ils n'en pouvaient tellement plus, on les sollicitait tellement qu'ils ont arrêté. Ils ont arrêté de servir, on ne les voit plus en fait. Ils viennent à l'église, mais on ne les voit plus servir, parce que pour eux, c'est rédhibiteur, ils ne veulent plus servir. Ils ont été limités du service parce que justement, ils n'ont pas su en fait dire stop, dire non. Parce qu'en fait, tu peux dire non. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient te voir.
Même si merci, enfin, beau sourire.
Oui, même si c'est un beau sourire. Si tu sens que ce n'est pas ton appel, que ce n'est pas ton temps, tu peux le dire en fait. Tu peux te mettre devant Dieu, tu peux dire voilà, je vais prier, je vais voir si c'est vraiment le. Enfin, Dieu me donne son go. Et puis si c'est non, c'est non en fait. Et c'est pas grave, parce que finalement, même la personne qui a besoin de quelqu'un, Dieu lui donnera en fait. Donc voilà, faut pas non plus se sentir forcé de servir aussi.
Puis d'avoir ce syndrome du sauveur, que tout repose sur moi. Et quelquefois, on a tendance à penser que l'Église a tellement besoin de moi que c'est comme c'est moi qui rends juste service à l'Église. Mais n'oublions pas en fait que c'est aussi... on a besoin du service en tant que croyant, parce que ça fait partie de qui nous sommes. Et maintenant, comme tu l'as dit, tout est une question d'équilibre, tant dans la quantité que dans le timing aussi. Et de savoir quand il faut dire oui, et quelquefois c'est des oui qui vont nous coûter, et quand il faut dire non. Et bien souvent, en fait, les vrais noms qui sont inspirés de Dieu, c'est des noms qui nous coûtent, parce que ça vient pas de la chair. Et du coup, c'est des choses auxquelles on aurait voulu dire oui. Et nos oui, aussi, quelquefois, nous coûte, parce que c'est pas les choses qu'on aurait voulu accepter. Donc soyons disponibles entre les mains du Seigneur, prêts à servir, prêts à pouvoir dire oui quand il faut dire oui, et prêts à dire non quand il faut dire non. Et si vous avez perdu la joie du service, on prie que vous soyez renouvelés, et que s'il y a des mensonges qui se sont infiltrés en vous, s'il y a la chair à commencer à prendre trop de place, et bien que vous puissiez être aussi malléables entre les mains de Dieu, pour qu'il puisse venir vous épurer, et qu'à nouveau on puisse vous trouver heureux, en train de travailler, en train d'œuvrer pour l'œuvre de Dieu, parce que ce sera une grande joie pour vous, et je crois que ça va amener beaucoup de bénédictions. Alors ne tardons plus, parce que Jésus revient bientôt et nous savons que les temps sont courts. Merci beaucoup Medvi d'avoir été avec nous. Merci les filles. Merci. Et on vous souhaite un bon week-end. Bye bye.
Bye. Bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.